Au début de 1946, Evelyne et moi avons emménagé dans une maison de deux pièces de la municipalité à Orlando East. Et plus tard, nous nous sommes installés dans une maison légèrement plus grande, numéro 8115 à Orlando West. C'était un quartier poussiéreux et austère de maisons municipales, des boîtes d'allumettes qui plus tard feraient partie du grand Soweto. Soweto étant l'abréviation de South Western Townships. Le loyer de notre maison s'élevait à 17 shillings 6 pence par mois. La maison elle-même était identique aux centaines d'autres maisons construites sur des terrains grands comme des mouchoirs de poche, au bord de routes boueuses. Elle avait le même toit de tôle, le même sol de ciment, une petite cuisine et au fond un seau comme toilette. Malgré sa modestie, j'étais très fier de ma première vraie maison. Un homme n'est pas un homme s'il n'a pas une maison à lui. Je ne savais pas à l'époque qu'il s'agissait de la seule maison qui serait entièrement à moi pendant de très nombreuses années. L'État nous l'avait attribuée, à Evelyne et à moi, parce que nous n'étions plus deux, mais trois. Notre premier fils, Madiba Tembekile, venait de naître. On lui avait donné mon nom de clan, Madiba, mais on l'appelait Tembi. C'était un petit garçon solide et joyeux dont la plupart des gens disaient qu'il ressemblait plus à sa mère qu'à son père. J'avais maintenant un héritier, mais je n'avais pas grand-chose à lui léguer. J'avais quand même perpétué le nom de Mandela et le clan Madiba, ce qui est la principale responsabilité d'un homme Kossa. Au début de 1947, j'ai terminé la période obligatoire de 3 ans comme stagiaire et mon temps chez Witkin, Sidelski et Heidelman a pris fin. J'ai décidé d'être étudiant à plein temps pour obtenir mon diplôme et devenir avocat. La perte des 8 shillings et 1 penny par mois que je gagnais chez Sidelski a été fatale. J'ai fait une demande auprès du Bantu Welfare Trust, à l'Institut sud-africain des relations entre races, à Johannesburg, afin d'emprunter 250 livres sterling pour m'aider à payer mes études de droit, ce qui comprenait les droits d'inscription, les livres et une pension mensuelle. On m'a accordé 150 livres. 3 mois plus tard, j'ai à nouveau écrit en précisant que ma femme allait prendre un congé de maternité et que nous allions perdre son salaire de 17 livres par mois, absolument nécessaire à notre survie. J'ai reçu l'argent supplémentaire, ce dont j'étais reconnaissant. Pourtant, je ne l'avais obtenu qu'à cause de circonstances malheureuses. La naissance de notre fille Makaziwe s'est passée sans problème, mais elle était fragile et souffreteuse et décéda à 9 mois. Evelyne était folle de douleur, et la seule chose qui apaisait un peu ma propre douleur, c'était de tenter de soulager la sienne. En politique, qu'importe les plans qu'on établit, les circonstances dictent souvent les événements. En juillet 1947, pendant une conversation à bâton rompu avec l'MBD sur la Ligue de la Jeunesse, il s'est plaint d'une brusque douleur au ventre et d'avoir froid. La douleur a empiré et nous l'avons conduit au Coronation Hospital. Au cours de la nuit, il est mort à l'âge de 33 ans. Beaucoup ont été profondément touchés par sa mort. Walter semblait abattu. Cette mort a également marqué un recul pour le mouvement, car l'MBD était une source d'idées et il attirait des gens vers l'organisation. Peter Mda lui a succédé. Son approche analytique, sa capacité à s'exprimer clairement et simplement et son expérience tactique faisaient de lui un excellent politique et un leader de premier plan pour la Ligue de la Jeunesse. Mda croyait que la Ligue de la Jeunesse devait fonctionner comme un groupe de pression interne, une aile militante nationaliste à l'intérieur de l'ANC pour propulser la vieille organisation dans une nouvelle ère. Le nationalisme de Mda était plus modéré que celui de l'MBD, et sa pensée débarrassée de ce soupçon de racisme qui marquait celle de l'MBD. Il haïssait l'oppression et la domination blanche, mais pas les blancs eux-mêmes. Il était aussi moins extrême dans son opposition au Parti communiste que l'MBD, ou que moi-même. Je faisais partie des jeunes de la Ligue qui se méfiaient de la gauche blanche. Tout en étant l'ami de beaucoup de communistes blancs, je me méfiais de l'influence des blancs dans l'ANC et je m'opposais à des campagnes communes avec le Parti communiste. J'avais peur que les communistes n'aient l'intention de prendre le pas sur nous sous prétexte d'actions communes. Je croyais que c'était un nationalisme africain pur, et non pas le marxisme ou le multiracisme qui nous libérerait. Avec quelques-uns de mes collègues de la Ligue, j'ai même interrompu des meetings du Parti communiste en me précipitant sur la tribune, en arrachant les banderoles et en prenant le micro. À la conférence nationale de l'ANC, en décembre, la Ligue de la Jeunesse a déposé une motion exigeant l'expulsion de tous les membres du Parti communiste. Cette motion a été rejetée. Nous avions subi une défaite importante. En 1947, j'ai été élu au comité exécutif de l'ANC du Transvaal et j'ai travaillé sous les ordres de C.S. Ramohanoé, président pour la région du Transvaal. C'était mon premier poste dans l'ANC et cela a représenté une étape capitale de mon engagement dans l'organisation. Dès l'instant où j'ai été élu au comité exécutif du Transvaal, je me suis identifié avec la totalité de l'ANC, avec ses espoirs et ses désespoirs, ses succès et ses échecs. J'étais maintenant lié de cœur et d'âme. Ramohanoé est un de ces hommes avec lesquels j'ai beaucoup appris. C'était un nationaliste convaincu et un excellent organisateur, capable de trouver un équilibre entre des conceptions différentes et un compromis acceptable. Si Ramohanoé n'aimait pas les communistes, il pouvait très bien travailler avec eux. Pour lui, l'ANC était une organisation nationale qui devait accueillir tous ceux qui soutenaient notre cause. En 1947, à la suite de la campagne indienne de résistance passive, les docteurs Kuma, Dadou et Naiker, respectivement présidents de l'ANC, du Transvaal Indian Congress et du Natal Indian Congress, ont signé le Doctors Pact, le pacte des médecins, pour joindre leurs forces contre l'ennemi commun. Cela a été un pas décisif vers l'unité des mouvements indiens et africains. Plutôt que de créer un organisme politique central pour diriger les différents mouvements, ils se sont mis d'accord pour coopérer sur des questions d'intérêt commun. Plus tard, l'APO, African People's Organization, une organisation métisse, a rejoint le pacte. Les Africains n'avaient pas le droit de vote. Mais cela ne voulait pas dire qu'on ne s'intéressait pas aux vainqueurs. Les élections générales blanches de 1948 opposaient l'United Party, alors au pouvoir, dirigé par le général Smuts, à ce moment-là au sommet de sa reconnaissance internationale, au nouveau National Party. Si Smuts avait engagé l'Afrique du Sud du côté des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale, le Parti national avait refusé de soutenir la Grande-Bretagne et avait publiquement sympathisé avec l'Allemagne nazie. La campagne du Parti national se concentra sur le Schwarzgewahr, le péril noir, avec comme slogan « Die Kaffer ob sie Plek », le nègre à sa place, et « Die Coulis wie die Land », les coulis à la porte, coulis étant le terme méprisant pour désigner les Indiens. Les nationalistes dirigés par le docteur Daniel Malan, un ancien pasteur de l'Église réformée hollandaise et ancien directeur de journal, formaient un parti animé par l'amertume. Amertume envers les Anglais, qui pendant des décennies les avaient traités comme des inférieurs, et amertume envers les Africains, car les nationalistes croyaient qu'ils menaçaient la prospérité et la pureté de la culture africaneure. Les Africains n'éprouvaient aucune loyauté envers le général Smuts, mais encore moins envers le Parti national. La plateforme de Malan était connue sous le nom d'apartheid. Il s'agissait d'un terme nouveau, mais d'une vieille idée. Mot à mot, cela signifie « séparation », et le terme représentait la codification dans un système oppressif de toutes les lois et de tous les règlements qui avaient maintenu les Africains dans une position inférieure aux Blancs pendant des siècles. Ce qui était plus ou moins de facto allait devenir de jure. La ségrégation pratiquée au hasard au cours des trois derniers siècles allait être consolidée dans un système monolithique, diabolique dans le détail, inéluctable dans son objectif et écrasant dans son pouvoir. Le point de départ de l'apartheid affirmait que les Blancs étaient supérieurs aux Noirs, aux Métis et aux Indiens, et sa fonction consistait à fixer pour toujours la suprématie blanche. Le général Smuts lui-même se rendait compte des dangers de cette idéologie inflexible en dénonçant l'apartheid comme un concept fou né des préjugés et de la peur. À partir de la victoire des nationalistes aux élections, nous avons su que notre pays serait désormais un lieu de tension et de lutte. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique du Sud, un parti exclusivement africanaire dirigeait le gouvernement. « L'Afrique du Sud nous appartient de nouveau », déclara Malan dans son discours de victoire. Malan commença immédiatement à mettre en œuvre son programme pernicieux. Dans les semaines qui suivirent son accession au pouvoir, le gouvernement nationaliste annonça son intention de restreindre le mouvement syndical et de limiter les droits des Indiens, des Métis et des Africains. Si nous avions quelques espoirs ou quelques illusions sur le Parti national avant qu'il accède au pouvoir, nous avons été rapidement détrompés. La menace qu'il proférait de remettre le kafir à sa place n'était pas vaine. Le gouvernement a fait voter la célèbre loi sur l'interdiction du communisme, Suppression of Communism Act. Mais le texte de loi était rédigé d'une façon si large qu'il interdisait la moindre protestation contre l'État et permettait essentiellement au gouvernement d'interdire toute organisation et d'arrêter toute personne opposée à sa politique. En réponse à cette nouvelle menace encore plus puissante de l'État, l'ANC s'est engagée dans une voie inhabituelle et historique. En 1949, il entreprit un effort décisif pour se transformer en une véritable organisation de masse. La Ligue de la Jeunesse rédigea un programme d'action dont la pierre angulaire était une campagne de mobilisation de masse. Le programme d'action, approuvé à la conférence annuelle, appelait à exiger des droits politiques par les boycotts, les grèves, la désobéissance civile et la non-coopération. Le programme d'action approuvé à la conférence annuelle appelait à exiger des droits politiques par les boycotts, les grèves, la désobéissance civile et la non-coopération. En outre, il appelait à une journée de grève nationale pour protester contre la politique raciste et réactionnaire du gouvernement. Ce programme sera connu sous le nom de « campagne de défi ». Il marquait une rupture avec l'époque des manifestations convenables et, dans l'ANC, beaucoup de vieux de la vieille devaient s'effacer devant cette nouvelle ère de fort militantisme. Les membres de la Ligue de la Jeunesse, dont j'étais, avaient maintenant des postes dans la vieille organisation. Nous avions entraîné l'ANC dans une voie plus radicale et révolutionnaire.